Sûrement pas vu avec ma famille la semaine dernière, et non plus, et puis ni mon frère, parce que nous étions à Nîmes. Donc nous sommes Nîmois, pour ceux qui ne savaient pas. Nous avons vécu, moi j'ai vécu plus de 25 ans là-bas, et donc c'était les 70 ans de notre oncle Gégé. Et c'était beau. Pourquoi je vous parle de ça? Même c'est parce qu'on a passé un bon temps de famille. Moi, qu'est-ce que j'aime ces bains de famille-là, ces bains d'affection. Vous savez, dans la famille, on est très tactile, donc tout le monde se fait des câlins, comment tu vas, ça fait du bien. Et c'est vrai que j'ai retrouvé l'église de Nîmes, c'est là où j'ai grandi pendant 25 ans. Donc de revoir ses frères et sœurs que j'ai connus depuis que je suis tout petit, ça fait du bien, vraiment du bien. Mais ce qui m'a particulièrement touché, c'est que notre oncle Gégé, qui est aussi dans la louange, a vraiment eu à cœur le dimanche matin que sur la strade, il y ait ses enfants, donc la famille de Vogel, et les enfants Sarkis. Donc il y avait Samuel, il y avait mon frère Stéphane qui joue de la basse, il y avait sa femme qui chantait, j'étais aussi au piano et au lead avec d'autres. Et donc on était juste nos deux familles, Sarkis de Vogel, donc 8 ou 9, en train de louer le Seigneur. Et vraiment Dieu m'a parlé sur l'héritage. C'est incroyable, on ne réalise pas la bénédiction que le Seigneur veut nous donner jusqu'à la millième génération. Et quand je voyais ces deux familles-là, j'étais presque ému aux larmes de me dire, ben voilà, c'est pas juste comme ça, tac, il y a ces deux familles qui, c'est vrai, on est doués, merci Seigneur, on a travaillé nos instruments, mais il y a un don que Dieu nous a donné aussi, il y a la base, il y a ce cœur d'adorateur. Nous sommes, comme le dit souvent mon père, des fils d'Azaf, et je vous en parlerai de Azaf. C'était vraiment celui qui conduisait la louange au temple de David. Mais je crois aussi que nous sommes nos deux familles au bénéfice de ce que nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont semé. Et vous connaissez pour la plupart mon papa, mais il n'y a pas que lui. Il y a vraiment, j'ai le privilège d'être dans une lignée où il y a eu beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes qui ont œuvré pour le royaume de Dieu, et notamment William Booth, qui est le fondateur de l'armée du salut et qui, inspiré par l'esprit, allait dans les rues de l'Angleterre alors qu'il y avait un monde ouvrier, un monde pauvre, et il prêchait la bonne nouvelle. Et il y a eu des milliers et des milliers de conversions. Et c'est pour vous encourager, pour vous dire que parfois on se dit, mais Seigneur, j'ai l'impression de semer dans les larmes et c'est difficile. Mais je suis persuadé que chacun d'entre nous, nous récolterons avec joie. Et ce que j'ai vécu ce dimanche matin, je disais, mais quelle grâce de me retrouver là avec mes cousins en train de louer le Seigneur. Et ce n'était pas juste des chants, vraiment, il y avait cette atmosphère d'adoration, cette atmosphère de louange, et on était au ciel, et c'est beau. Et c'est pour vous encourager en tant que parents, en tant qu'amis, en tant que frères et sœurs, simplement continuer de semer dans les personnes qu'il y a autour de vous. Parce que pour vos enfants, vos arrière-petits-enfants, pour vos amis, pour tous ceux qui sont autour de vous, vous allez porter du fruit, être un instrument de bénédiction. Et donc ce matin, on continue en effet sur David. C'est vrai que ça fait des mois qu'on y est. Je ne vous cache pas qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on passe à autre chose? Mais on s'est dit non, il y a encore tellement de choses à dire. Donc on va aller jusqu'au moins la fin de l'année encore sur David. Et moi, je ne pouvais pas passer à autre chose sans parler de David comme un homme selon le cœur de Dieu qui aimait louer son Dieu. Et je vais parler d'un passage particulier que je vous invite à prendre dans vos Bibles ou dans votre smartphone, 2 Samuel 6. Comme j'aime bien le dire, je le dis aussi dans notre groupe Impact, vraiment je vous invite, quand on lit la parole, vraiment prenez quelque chose, peu importe le smartphone, la Bible, l'iPad, peu importe, mais qu'on ait l'écriture sous les yeux, c'est tellement plus facile de... Parce que certains retiennent par l'oreille, d'autres par la lecture, et c'est bon toujours d'avoir la Bible sous les yeux. 2 Samuel 6, verset 12. On fit savoir au roi David que l'Éternel avait béni la famille d'Obed-Edom et qu'il avait fait prospérer tous ses biens à cause du coffre de Dieu. Alors David fit transporter le coffre de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à dans la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient le coffre de l'Éternel eurent avancé de 6 pas, ils s'arrêtèrent et l'on offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement d'un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Ainsi David et tout le peuple d'Israël transportèrent le coffre de l'Éternel en poussant des cris de joie et en faisant résonner les cors. Lorsque le coffre de l'Éternel arriva dans la cité de David, Michal, la fille de Saul et la femme de David, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi sauter et danser devant l'Éternel. Alors elle conçut du mépris pour lui dans son cœur. Rapidement, un petit contexte. Vous savez que à chaque fois que David allait en guerre, allait faire bataille contre ses ennemis, toujours cette arche de l'alliance était transportée au milieu des batailles. Et un jour, alors que ce coffre de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu, hein, parce qu'on ne se déplaçait pas sans la présence de Dieu, alors que cette arche de l'Alliance allait vers Jérusalem, et c'est écrit juste avant, il y a un dénommé Ouza qui transportait cette arche de l'Alliance qui, parce que l'Alliance allait tomber, attrape l'arche de l'Alliance, et à ce moment-là, il est foudroyé sur place. Et là, d'un coup, tout le peuple est dans l'épouvante. David, lui le premier, qui est un peu en colère contre Dieu, il dit « Mais attends, mais je suis en train de ramener l'arche de l'Alliance dans mon pays, dans ma ville. Pourquoi là, tu foudroies comme ça ?» Parce que cette arche de l'Alliance, c'était la présence de Dieu, c'était parfait, il n'y avait rien d'impur en ma présence, comme le dit la parole. Et donc David a eu peur. Alors il dit « Ah non, moi je ne veux pas que l'arche de l'Alliance vienne chez moi. » Donc il a mis l'arche de l'Alliance dans la famille d'Obed et d'Om pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois-là, cette famille-là a été extrêmement bénie. Jusqu'au point, donc vous imaginez, quand on est béni, imaginez-vous béni, tellement béni que dans le village, dans la ville, dans la contrée, tout le monde est au courant que la famille d'Obed et d'Om, en juste 3 mois, est bénie, tout se multiplie, le bétail, la famille, tout est béni. Et donc David dit, non quand même, l'arche de l'Alliance est là, la présence de Dieu est là, il faut qu'elle revienne à Jérusalem. Et c'est beau parce que David, c'est un homme selon le cœur de Dieu qui recherchait par-dessus tout la présence de Dieu. Rappelez-vous ce magnifique psaume 27 qu'il a écrit. Seigneur, je désire une chose, mais juste une chose, demeurer toute ma vie dans ta maison pour contempler ta magnificence, pour contempler ta beauté. Et il y avait ce cœur chez David, c'était pas juste des mots, mais c'est vraiment, il avait à cœur de rencontrer Dieu et que cette présence de Dieu habite dans sa vie et au milieu de son peuple. Et ce qui est touchant dans les passages que je vous ai lus, j'ai essayé d'insister sur certains mots, c'est que David, donc rappelez-vous, hein, pour ceux qui ne le savent pas peut-être, il était roi, ramenons-nous des milliers d'années en arrière, hein, le roi, on peut le voir dans certains films, le roi, ça a une certaine prestance, voilà, on ne touche pas le roi, il a sa garde protégée, donc on est, voilà, c'est la royauté, quoi, et vraiment, il y avait cette atmosphère de royauté. David aimait le Seigneur, il respectait peut-être toutes les coutumes, que très honnêtement, je ne connais pas toutes par cœur, mais voilà, il y avait une certaine procession. Et qu'est-ce qui se passe alors que l'Arche de l'Alliance rentre? David se dévêtit, donc il n'était pas nu, mais de ce qu'on lit, il était seulement juste caché ici, peut-être torse nu, mais avec cette joie et cette fougue pour Dieu, à danser alors que l'arche se rapprochait, il dansait, il sautait, il était dans une joie, dans une allégresse j'en suis sûr, inspirée par l'Esprit, parce qu'il était heureux parce que la présence de Dieu revenait dans son peuple, revenait dans sa ville. Il était joyeux. Et il y a tellement d'enseignements à apprendre de ce que David a fait. Lui qui était roi, lui qui était vraiment, je peux l'imaginer, avec une couronne, avec ce gros manteau, avec toute son armée là, il s'est humilié. Et c'est d'ailleurs pour ça que sa femme le méprise et dit mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es le roi, mais qu'est-ce que tu fais à danser comme ça devant les servants, devant tout le monde? Mais c'est pour, en ce temps-là, c'était l'humiliation. Et lui a choisi, David, de laisser ce côté roi, de laisser cette royauté-là pour vraiment s'humilier, pour danser devant l'Éternel. Et il y a un petit parallèle, il y a une petite analogie avec Jésus. Jésus, lui, qui est le roi des cieux, lui, qui est le roi des rois et qui s'est fait homme, qui s'est humilié sur cette terre pour toi, pour moi, pour donner sa vie en rançon, afin que nous ayons la vie éternelle, afin que nos péchés soient pardonnés. Et c'est pour ça que souvent, il y a beaucoup d'analogies entre David et Jésus, et on dit même que Jésus, c'était le fils de David. Pourquoi? Parce qu'il était dans la lignée de David. Et chez David, on voit ce cœur, peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce qu'on peut dire de moi, peu importe ce que mes servantes, ce que mon peuple, ce que mon armée pourra dire, ce que même ma femme pourra dire, je choisis de sauter, de danser, d'avoir cette louange extravagante pour Dieu. Et je crois que ce n'est pas réservé qu'à David. Si tu t'appelles David, tu te sens peut-être plus concerné, mais je pense que c'est pour chacun d'entre nous, pour Olivier, pour Samuel, pour Mathieu, pour Christelle, pour chacun d'entre nous, avoir cette louange extravagante pour Dieu. Et je veux juste casser un mythe, et ne m'en voulez pas, mais parce que je sens que c'est important, j'ai vraiment senti que Dieu me le remettait à cœur, c'est que ce n'est pas que pour les extravertis. Et je veux m'adresser à tous les introvertis. C'est vrai que moi, je suis extraverti, ça paraît peut-être plus facile de dire ça, mais j'ai une femme qui est une fausse extravertie, qui est plutôt introvertie. Et je veux juste vous encourager, si tu te sens introverti, si tu, pour toi, là, le regard de l'autre, il est peut-être encore plus important, juste t'encourager que ce que je vais partager là, ce n'est pas que ce pour... que pour ceux qui sont un peu exubérants, ceux qui ont cette facilité de parler en public pour différentes raisons, c'est pour chacun d'entre nous. Dieu nous appelle à avoir cette louange extravagante, à avoir cette passion, cette zèle pour son royaume, cette zèle, ce zèle pour son nom. Et c'est pour chacun d'entre nous. Et parfois, je pense qu'on peut, autant en tant qu'extraverti qu'introverti, se cacher derrière notre caractère, derrière cette sensibilité-là qu'on a, dire « oui, mais tu sais, moi, je suis introverti, donc voilà, moi, je préfère quand c'est tout calme. » Et c'est vrai, bien sûr que Dieu peut se manifester dans un doux murmure, mais il peut aussi se manifester dans ta vie, toi, le plus introverti au monde, dans le feu, dans la pluie, dans le vent, ça fait du bruit, ça dérange, ça résonne, mais Dieu sait, vient tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et personne n'y prend garde, Job 36. Alors, prenons-y garde, comment Dieu veut se manifester, et ne mettons pas Dieu dans une boîte. Mais simplement, notre réponse, c'est de dire, Seigneur, comme tu le veux, comme tu as décidé de venir, viens et touche ma vie. Et je crois que c'est cette réponse-là que nous devons avoir. Et c'est pour ça que je voulais juste insister dessus, parce que ce que je vais partager là, vraiment, c'est pour chacun d'entre nous. Une louange extravagante. Vous savez, la louange, elle vient du cœur. Et il y a même ce verset qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est vrai qu'on peut faire façade une fois sur l'estrade ou dans ta vie, mais à l'usure, plus le temps passe, des jours, des semaines, des mois, des années, ce que tu vis dans le privé se rejaillit dans le public, rejaillit dans ce qu'on voit. Et porter un masque, je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, et surtout dans ce domaine-là. Si tu vis rien dans ta vie personnelle et avec Dieu, si c'est sec, je pense que ça sera difficile dans ces temps-là de... où on est ensemble, de louer le Seigneur parce que tu te sens comme vide. Et je sentais que c'était important de rappeler qu'on a cette responsabilité, chacun d'entre nous, qu'on soit chanteur, qu'on soit musicien, mais qu'on chante faux, qu'on ne soit pas notre tasse de thé, entre guillemets, on a cet appel à rencontrer le Père. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et on a cet appel pas comme quelque chose de forcé, pas comme tu dois, mais juste ce plaisir comme David. Vraiment, il voulait qu'une chose, c'était rencontrer Dieu, c'est que la présence de Dieu se manifeste dans sa vie et dans nos vies personnelles, vraiment dans ces temps d'intimité, comme l'a dit Jésus, quand tu pries, vraiment, ferme ta porte alors que personne ne te voit. Là, prie ton Père qui est dans les cieux et alors que personne ne le voit, lui, il te le rendra. Et on a besoin de ces temps d'intimité, surtout dans cette vie d'aujourd'hui où tout va à 100 à l'heure, juste de s'arrêter et de prendre du temps avec notre papa qu'on aime. Ce qu'on vit dans le privé va rejaillir dans le public. Et ce qu'on vit là, je veux dire, si aujourd'hui, vous savez que l'une de premières valeurs, notre premier A, c'est adorer Jésus. C'est adorer Dieu, c'est adorer Jésus. On aime adorer Jésus et c'est ce qu'on veut véhiculer dans cette culture-là. C'est, ah, Seigneur, qu'il y ait cette adoration dans cette vision. C'est cette vision que Dieu nous a donnée alors que Dieu nous a dit allez implanter une église à Montélimar, alors qu'on réfléchissait à la vision pour cette église, et bien la première chose qui nous est venue, c'est adorer Jésus. Et c'est ça qu'on veut vivre ici ensemble, mais dans tous les jours de nos vies, peu importe où on est, c'est qu'il y ait ce parfum d'adoration, ce parfum de louange sur nous. Et quand on passe du temps dans la présence de Dieu, plus on expérimente Dieu, plus votre chemise, votre t-shirt, votre robe, plus toute votre vie sera empreinte de ce parfum du ciel. Alors je vous encourage, je nous encourage, waouh, expérimentons, prenons du temps avec Dieu. Jean 4, 24, Jésus dit, « Cependant, un moment vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père dans l'esprit » et dans la vérité, ou en esprit et en vérité. Car ils sont le genre d'adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et ses adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Vous savez, parce que nous sommes corps et esprit, nous ne pouvons pas adorer Dieu de tout notre cœur si nous l'adorons qu'avec notre corps et que notre esprit est éteint. On est là, on danse, tout ça, mais je pense à ma gamelle de ce midi, je pense à mes enfants, je pense à mon travail, je dis, ah ouais, donc j'ai tel business à faire, ok, tatac. Non, c'est pas possible. Là, t'es pas en train de louer le Seigneur comme tu peux pas louer le Seigneur juste avec ton esprit. Voilà, Seigneur, je te loue. Et puis rester statique, rester mort dans ton corps. Vraiment, que tout mon être loue le Seigneur. C'est ce que David dit, que tout mon être loue le Seigneur. Le Seigneur nous a donné un corps pour l'adorer. Et même si peut-être que c'est difficile pour toi, en public ou quoi, il n'y a pas de souci avec ça. Mais que ce soit dans ta chambre, que ce soit peu importe où, vraiment, que nos louanges ne soient pas que des mots, ne soient pas que dans notre intellect, mais que ça se vive. Je veux dire, quelqu'un qui vient et qui me dit, tu sais, Olivier, je suis le plus heureux sur terre, mais qui est comme ça, il y a un moment, vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas cohérent. Donc on ne peut pas dire je suis heureux si je pleure, ou on peut pleurer de joie peut-être, ça arrive. Mais c'est important que notre corps soit en accord avec notre esprit. Et je crois vraiment que Dieu m'a vraiment remis ça sur le cœur, que soyons cohérents. Vraiment, bas les masques, les amis, bas les masques. Si tu es dans la détresse, si c'est difficile, vraiment, juste sois toi. Si tu es dans la joie, sois joyeux. Mais je sentais que le Seigneur voulait réaligner ce corps, âme et esprit. Parfois, je trouve qu'on est un peu incohérent. On va chanter, Seigneur, tu es bon, je danse pour toi, je suis vraiment heureux de tout ce que tu fais dans ma vie. Et nous sommes statiques. Et en fait, on le chante, mais au moment où on le chante, on pense à autre chose. Et je crois qu'il y a ce besoin et cet appel à revenir à la simplicité de la parole et revenir à la simplicité de l'évangile. Cette bonne nouvelle, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est juste d'être comme ces petits-enfants. Moi, mais qu'est-ce que je suis touché, comme disait Luc, mais je suis touché de voir ces enfants-là qui dansent, qui chantent, qui louent le Seigneur. Ils ne se posent pas 10 000 questions et ils ne sont pas en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ils sont là, ils sont tout naturels. Et je dis, mais quel exemple! Franchement, je vous dis, Église, chers amis, vraiment, ces enfants, pour moi, sont un exemple. Et je pense sont des exemples pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que Jésus a dit, soyez comme ces petits-enfants. Soyez comme ces petits-enfants qui sont là, qui louent leur Père de tout leur cœur. Mais que c'est beau! C'est beau. Et on a cet appel du Seigneur à revenir à la simplicité de l'évangile. Alors soyons alignés, que notre esprit loue le Seigneur, que notre corps loue le Seigneur, que notre âme loue le Seigneur. C'est important que nous soyons alignés dans ces temps de louange, que c'est important. Et je le redis, mais à la mesure où je vais adorer Dieu en privé, à la mesure où je vais passer du temps vraiment dans sa présence à déclarer qui il est, et j'irai plus loin dans qu'est-ce que la louange plus tard, eh bien, à la mesure, je vais pouvoir louer Dieu en public, là, dans ces temps de rassemblement, que ce soit le dimanche matin, mais aussi dans les groupes Impact, dans d'autres occasions, de louer le Seigneur. Et après, c'est facile. Moi, très honnêtement, bien sûr que j'ai des temps difficiles, bien sûr que ce n'est pas toujours facile, mais c'est tellement devenu, si vous voulez, mon quotidien de louer le Seigneur, que c'est facile, moi, de louer le dimanche matin. J'ai cette facilité à me connecter et bam, c'est parti, même si peut-être des fois il y a des fausses notes, même si... Eh bien, c'est pas grave, j'ai décidé, en fait, c'est un choix de louer le Seigneur. Et sachez-le, c'est comme aimer. Aimer, ben, des fois, l'amour est là, on est bien, c'est la romance, quoi. Et des fois, avec notre épouse ou notre époux, il faut se le dire, il y a des moments plus difficiles. C'est compliqué avec les enfants, c'est compliqué au travail, ça rejaillit sur la famille. Mais j'ai fait le choix d'aimer ma femme. J'ai fait le choix tous les jours de dire, chérie, je t'aime. Et parfois, les émotions sont là et parfois, non. Il faut être honnête, des fois, je suis un peu travaillé ou quoi, et je ne ressens pas, mais chérie, j'ai choisi de t'aimer jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne. Et bien, c'est pareil, louer Dieu, c'est pareil. Je veux vraiment vous encourager, quand on loue comme ça, choisis de louer le Seigneur. Même David, lui-même, qui avait un cœur selon le Seigneur, pour lui, peut-être pareil, c'était peut-être facile de rentrer dans la présence de Dieu, mais même lui, je suis sûr qu'au moment où il a écrit ce psaume, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits », avec ce point d'exclamation qu'on voit à la fin de cette phrase, c'est une déclaration. Et peut-être qu'à ce moment-là, il n'avait pas envie de louer le Seigneur. Il était fatigué, peut-être qu'il était attaqué par ses ennemis, peut-être qu'il s'était disputé avec son équipe ou avec sa femme. C'était compliqué, mais il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Et je crois qu'on a cette responsabilité, chacun d'entre nous, dans ces moments difficiles, de dire « Mon âme bénit l'Éternel ». Ne restons pas passifs. C'est dommage parce qu'on se prive de la gloire de Dieu, on se prive de la grâce de Dieu, de rester passif, de se laisser bouffer par nos pensées, par ces mensonges qui viennent nous assaillir. Mais le Seigneur nous a donné autorité. Et on peut prendre autorité sur notre âme, on peut prendre autorité sur notre corps, on peut prendre autorité sur toute chose. Jésus nous a donné autorité. Et tu peux prendre autorité et dire « Mon âme, maintenant tu bénis l'Éternel ». Et je vous encourage, ça m'est arrivé combien de fois ? Je n'avais pas envie de louer. Mais il y a un moment, c'est comme si le Saint-Esprit me dit « Maintenant, déclare les choses ». Et tu commences « Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, merci pour ce que tu fais dans ma vie. Oui Seigneur, c'est vrai que tu es fidèle. Oui Seigneur, c'est vrai que tu m'as délivré. Oui Seigneur, mais c'est vrai que tu es tous les jours avec moi. Oui Seigneur, tu m'as béni. » Et c'est comme si plus tu déclares, plus il y a cet esprit de louange qui vient en toi. Il y a ce feu qui est là et qui est ranimé. Et d'un coup, 5 minutes après, waouh ! D'un coup, tu te sens comme lévité. Tu te sens, mais waouh, mais je pourrais déplacer des montagnes. Et c'est ça la déclaration, c'est ça louer Dieu. C'est que ça produit quelque chose en nous. Non seulement nous glorifions Dieu, mais en plus, ça, c'est comme si notre esprit... Il est waouh, il est renouvelé. Hein, Romains 12, verset 2, soyez sans cesse transformés par le renouvellement de votre intelligence. Mais quelle bonne façon d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence en louant Dieu. Loue Dieu, si tu es accablé, si c'est difficile, loue Dieu. Parce que l'attente du juste n'est que joie. Et j'avais cette parole pour quelqu'un ce matin, si tu es dans l'attente, je sens que quelqu'un ici est dans l'attente depuis des années d'une promesse que Dieu t'a faite. Et je veux te dire, ce verset, c'est que l'attente du juste n'est que joie. Et que dans ce temps d'attente, loue le Seigneur. Parce que peut-être que cette promesse ne va pas se réaliser demain. Mais je peux t'assurer que ton cœur va être transformé, que ta vie va être transformée. Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'arriver à cette promesse. C'est le parcours, c'est ce chemin pour arriver à cette promesse. Parce que Dieu veut transformer ta vie. Dieu veut faire des miracles dans ta vie, dans ta famille, au milieu de toi. Et j'ai envie de dire que cette promesse peut-être sera l'accomplissement de tout ce que Dieu aura fait pendant ce chemin. Alors ne reste pas aigri, ne reste pas déçu, dire « ça fait 10 ans que je prie, 10 ans que je prie pour la guérison, 10 ans que je prie pour telle ou telle chose et Dieu ne fait rien ». C'est faux, c'est un mensonge. Dieu fait des choses, peut-être pas ce que tu attends, mais Dieu fait des choses dans ta vie. Parce qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort, jamais lui dort, jamais. Lui, il agit. Il est tout le temps en mouvement, en train de te parler, de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Mais es-tu prêt ? Es-tu prêt à recevoir ce que Dieu veut te donner ? Es-tu prêt à prendre peut-être un chemin différent de ce que tu avais pensé pour arriver à la promesse que Dieu t'a donnée ? Alors, garde la foi et loue le Seigneur dans ces temps d'attente. Donc, qu'est-ce que la louange ? En hébreu, il y a 7 mots pour la louange. C'est pas mal, hein ? Mais ça donne un peu toutes les facettes de la louange. Et bien sûr, je n'ai pas l'arrogance d'être exhaustif, mais on va parler de pas mal de choses. Barak, qu'est-ce que ça veut dire Barak ? Ça veut dire se mettre à genoux. Et je reste convaincu qu'on ne peut pas louer, adorer Dieu sans à un moment donné adorer Dieu. Et je vais en parler plus loin, mais sans se mettre à genoux. Parce que quand on se met à genoux, ça a un symbole tellement fort. C'est Seigneur, je me soumets à ta volonté. Seigneur, ta volonté et pas la mienne. Seigneur, il y a toutes ces paroles-là. Et on a besoin, chacun d'entre nous, dans notre vie de chrétien, de fléchir le genou. Et peut-être que pour toi, c'est quelque chose de nouveau. Tu n'as jamais vu ça ou c'est un peu bizarre pour toi. Mais c'est simplement se mettre à genoux. Quand tu loues Dieu, c'est une louange que tu fais de dire, Seigneur, pendant toutes ces années, j'ai conduit ma vie comme je le pensais, j'ai fait certains bons choix, mais beaucoup de mauvais. Mais aujourd'hui, je choisis de soumettre ma vie à la tienne. Je choisis de soumettre ma vie à ta volonté. Vraiment, fais ta volonté dans ma vie. Et par ce geste symbolique de se mettre à genoux, tu te prosternes et tu dis, mon Seigneur et mon Dieu, fais de moi ce que tu veux. Et à ce moment-là, ça donne l'occasion à Dieu de venir dans ta vie et de te conduire là où il le veut. Parce que je rappelle, parce qu'on oublie des fois à la suite, que ce Romains 12, verset 2, dit « Soyez sans cesse transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. » Et ça, c'est la volonté de Dieu. Sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Sois-en convaincu que si t'amène quelque part, c'est pour le meilleur pour toi. Je ne dis pas que ça sera toujours facile. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de larmes. Je ne dis pas que tu n'expérimenteras pas ni le deuil. Bien sûr qu'il y aura des temps difficiles. Mais de tous, de tous tes malheurs, l'Éternel t'en délivre. Le psaume 34, il dit « De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. » Et de rester dans sa volonté, c'est là où tu vas expérimenter des choses extraordinaires. C'est là où vraiment tu vas découvrir ce que c'est la vraie joie en Christ, la vraie joie en lui. Donc, la louange, l'une des facettes, c'est se mettre à genoux, bénir Dieu comme un acte d'adoration. Yada, ça signifie élever les mains en célébrant. Toda, ça signifie être plein de reconnaissance. Et j'en parlerai après. Moi, par ma petite expérience, souvent la louange commence par la reconnaissance. Avant de faire quoi que ce soit, dire « Seigneur, merci, merci pour cette journée, merci pour mes enfants, merci pour mon travail, merci pour tout ce que tu me donnes. » On démarre par la reconnaissance. Apporte au Seigneur ta reconnaissance. Le psaume 50 dit « Apporte ta reconnaissance au Seigneur et il te fera entrer dans son chemin de gloire. » Commençons par la reconnaissance. Shabbat, cela signifie s'adresser à voix haute, triompher, crier. Il y a des temps pour être doux, mais il y a des temps. Comme on l'a dit là, je veux le proclamer, je veux le crier. Même en anglais, c'est plus scream, ça veut dire je crie quoi, wouh ! Je veux le crier sur le haut des toits quoi, que Dieu est bon. Et la louange, c'est ça aussi, c'est ces temps de fête, de triomphe à voix haute. Là, on est là, c'est la fête. On crie notre joie, on crie combien Dieu est bon. Ça fait partie de la louange. Alors, ne vous méprenez pas sur le prochain mot, halal. Halal, non, c'est pas du tout ça. Mais halal, ça veut dire extravagant, briller, être stupide, fou. Alors, je m'explique. Pourquoi stupide, fou, c'est pas la stupidité comme on peut l'entendre, c'est, eh ben, en fait, peu importe le regard des autres, un peu comme David a fait, peu importe ce qu'en pensent les autres, moi, je veux être comme un fou pour mon roi. Eh ben, c'est, tu danses, tu exprimes ta louange, peu importe ce que pense ton voisin, mais tu l'exprimes de tout ton cœur en dansant comme un fou pour ton Dieu. Et c'est ça que ça veut dire, c'est cette louange extravagante. Et dans la louange, il y a ce côté où, waouh, c'est extravagant. Zamar, ça veut dire faire retentir les instruments. Souvent, la louange, alors ça peut être a cappella, il n'y a pas de souci, et je précise bien sûr que la louange, ce n'est pas que les chants, c'est nous sommes une louange pour Dieu, mais la louange, c'est aussi faire retentir les instruments. Et au temps du peuple d'Israël, souvent, il y avait des trompettes, il y avait des cymbales, et même on plaçait les chantres et les musiciens devant l'armée d'Israël. Et on a plein de récits, Josaphat, Josué, ou alors que le peuple se met à louer Seigneur, déclarer, il est bon, que les cymbales retentissent, que les trompettes retentissent. Qu'est-ce qui se passe? Les murs de Jéricho s'effondrent. Tous les ennemis de Josaphat sont mis en déroute. Il y a une puissance dans la louange. Et ce zamar veut dire faire retentir les instruments. Waouh! Et enfin, Tehilia, cela signifie chanter, offrir notre louange comment dire ça? En fait, que Dieu habite dans notre louange. Vous savez qu'il y a ce verset qui dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et quand on loue Dieu, Dieu vient se manifester au milieu de son peuple. Donc voilà un peu, c'est sept mots, Barak, Yada, Toda, Shabak, Halal, Zamar et Teia, se mettre à genoux, élever nos mains, être plein de reconnaissance, s'adresser à Dieu à voix haute, triompher, crier, avoir cette louange extravagante, presque à danser comme un fou pour Dieu, faire retentir nos instruments et chanter, louer le Dieu qui habite au milieu de nos louanges. Et c'est à ça que c'est à cette louange extravagante que le Seigneur nous appelle. Alors les amis, ne soyons pas politiquement corrects dans nos rassemblements ensemble. Moi, je vous encourage vraiment, si c'était, bénissez le Seigneur, parce que si c'était que moi, je virerais toutes les chaises et je permettrais que voilà, qu'il y ait encore plus de liberté. Est-ce que c'est à ça que Dieu nous appelle? Bien sûr qu'on a besoin de s'asseoir, de pouvoir se poser, mais dans ces temps de louange, il y a tellement à vivre. Je vous le dis, vraiment, moi, c'est mes temps préférés. J'ai 35 ans, je n'ai jamais vécu des temps aussi forts que dans la présence de Dieu, que dans ces temps de louange. Et c'est tellement bon. Et en fait, je veux vous dire qu'on est chacun responsable. Ce n'est pas que le leader de louange, ce n'est pas que ceux qui nous conduisent, ce n'est pas que les leaders de cette église. Nous sommes chacun responsables. Parce qu'il y a un constat, je n'ai pas de verset pour l'appuyer, mais en tout cas, j'ai un constat que j'ai fait en 35 ans, c'est que selon votre cœur, selon votre expression de louange, selon dans quelle disposition vous êtes, ça va influencer l'atmosphère de la salle. Mettez-moi ici 30 personnes qui sont non-croyants, incrédules, dans la moquerie ou quoi, j'ai beau être le meilleur leader de louange au monde, imaginons, ça va être bloqué. Même Jésus lui-même, alors qu'il est revenu dans sa patrie, il a dit qu'il n'a pu faire là aucun miracle, si ce n'est guérir quelques malades. Jésus, lui, Dieu, pleinement homme, pleinement Dieu, ben c'est pareil pour nous. Si on a pleine incrédulité dans l'atmosphère, c'est compliqué. Mais mes meilleurs temps de louange, et je vous le dis, hein, qu'on soit 3000, 100 ou même 5, c'est ces temps où tout le monde est là, là où deux ou trois s'accordent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si nous sommes 100, 150 ou 5, mais accordés vraiment pour louer le Seigneur, pour le rencontrer, pour vivre, pour expérimenter sa gloire, mais alors là, je peux vous assurer que les cieux sont ouverts et que le ciel envahit la terre. Et pourquoi je vous dis ça, c'est pas du tout pour vous mettre une pression, mais juste pour réaliser que nous avons chacun d'entre nous cette responsabilité. Pourquoi es-tu venu ce matin? Pourquoi es-tu venu ce matin? Es-tu venu louer le Seigneur? Es-tu venu vraiment apporter ton offrande? Parce qu'on ne vient pas au culte, on vient rendre un culte à Dieu. Et je vous invite, quand tu es dans la voiture, quand tu te réveilles le dimanche matin ou tous les jours de ta vie, vraiment remets cette journée et dis: Seigneur, ce matin, je vais louer ton nom. Ce matin, je vais expérimenter ta présence, je vais t'apporter mon offrande, t'apporter ma louange. Et si nous venons tous avec cet état d'esprit, si nous venons tous avec ce cœur, c'est là, les amis, que nous allons voir des choses incroyables. J'ai vu et je l'ai expérimenté, j'ai vu des guérisons dans la louange. J'ai vu des gens délivrés, ça fait du bruit, dans la louange. J'ai vu des gens libérés de certaines addictions dans la louange. Quand la présence de Dieu est là, tout peut arriver. Tout peut arriver. Et si on veut vivre ça, si on veut aller encore plus loin dans la présence de Dieu, dans ces temps de louange, nous sommes responsables. Disposons nos cœurs quand nous venons le dimanche matin ensemble pour vivre ces temps-là. Moi, j'ai soif de plus, les amis, j'ai soif de plus. Je me rappelle, j'étais donc en Angleterre il y a quelques années, et nous étions dans une salle, dans notre église, et on a eu ce temps de louange. Donc on a démarré par la reconnaissance, et je vous en reparlerai après, mais voilà, on a suivi un petit parcours, et alors qu'on louait le Seigneur, vraiment, c'est fou, mais on était peut-être 150 ou 200, je ne sais plus, mais on aurait dit que tout le monde était vraiment venu pour adorer Dieu, quoi. Et il y avait une atmosphère, mais j'ai rarement vécu ça, c'est comme s'il y avait un brouillard, là. Donc imaginons que presque on a du mal à se voir, pourtant il y avait des lumières, mais j'avais presque du mal à voir mes voisins, et une présence de Dieu qui était là, si forte, que beaucoup étaient par terre, à genoux, en train de rire dans l'esprit. Alors c'est sûr, hein, c'était bruyant, je ne vous cache pas que c'était bruyant, mais alors j'aurais presque pu prendre un couteau et couper la présence de Dieu tellement que c'était tangible, c'était fort, parce que je suis persuadé qu'on s'était réunis là avec ce même cœur, ce même désir de voir la gloire de Dieu. Est-ce que ce matin tu veux t'écrier comme Moïse, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Est-ce que tu veux voir réellement la gloire de Dieu? Si c'est le cas, alors demande-le au Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et si tu viens avec cette faim et cette soif de Dieu, il va étancher ta soif. Je peux t'assurer qu'il va se manifester. Parce que le Seigneur recherche ses adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Et vous savez, au temps de David, et je n'aurai pas le temps d'en parler, mais vous pouvez l'écrire vraiment pour le relire chez vous dans Chroniques 16. C'est passionnant, mais vraiment passionnant. David, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que tellement qu'il aimait la présence de Dieu, tellement qu'il voulait que cette louange ne soit jamais arrêtée, et bien avec Asaph, Yedutun et ses fils, et puis d'autres, il a mis en place un service de louange 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous devez entendre sûrement ça, parce que c'est un peu, je veux dire... ça se manifeste un peu dans divers pays, les maisons de prière, les maisons de louange, toutes ces choses-là où en fait il y a des personnes qui se relient, et donc c'était le cas, et qui continuellement louaient le Seigneur, continuellement intercédaient, continuellement priaient pour diverses raisons, pour leur ville, pour leur église. Et c'est quelque chose que David avait instauré, et il a vu des choses incroyables. Parce que quand la présence de Dieu est là, tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc je veux vraiment, relisez-le. 1 Chronique 16. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle souvent du tabernacle de David. Qu'est-ce que ça veut dire un tabernacle? C'est une tente, c'est une maison, c'est un lieu où la présence de Dieu se manifeste. Et le tabernacle de David, pourquoi? Parce que lui avait instauré cette louange, cette maison de prière 24 heures sur 24. Et moi, c'est quelque chose qui est dans mon cœur, qui aujourd'hui n'est pas encore là, mais je vous le partage en tant qu'église, que je sens que le Seigneur nous appelle à ça petit à petit, à avoir cette louange qui est là continuellement, 24 heures sur 24, 16 heures sur 7, à voir des choses incroyables. Parce que comment on impacte une ville? Avant de faire quoi que ce soit, avant d'aller dans les rues, avant de faire quoi que ce soit, ça démarre par la louange et la prière. Comment on impacte une ville? C'est d'abord dans les lieux célestes. Hein, vous rappelez ce verset qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les dominations de ce monde. Et si tu veux gagner, avoir la victoire dans ta vie, ça démarre à genoux, ça démarre en déclarant qui est Dieu, ça démarre en intercédant pour ta ville, pour ta famille, pour là où Dieu t'a placé. Avant de faire quoi que ce soit, démarre à genoux en train de prier, de louer et d'adorer ton Dieu. Et c'est par ces choses-là que nous allons voir des choses incroyables se passer sur Montélimar, en Drôme et dans toute la France et le monde. Et il y a des gens et il y a des maisons de prière qui se mettent en place partout dans le monde où les gens se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et j'ai lu un livre qui malheureusement n'est pas traduit, mais qui m'a bouleversé, Dirty Glory, qui parle justement des maisons de prière partout dans le monde, à Ibiza, dans des lieux, même dans le quartier rouge à Amsterdam, des lieux très compliqués où il y a des maisons de prière qui sont mis là. Mais les fruits qu'ils voient, des prostituées qui viennent au Seigneur, des leaders de gangs qui se donnent à Christ. Mais vous croyez quoi? Est-ce que ça c'est venu parce qu'il y a un gars qui a du bagou, qui parle bien ou quoi? Non, ça c'est des gens qui sont loin et qui sont portés par la prière, portés par des milliers de personnes qui prient vraiment pour ces lieux, qui sont allés dans les rues, prient en langue, intercéder vraiment, qui ont fait le tour de la ville pour dire, un peu comme Josué qui a fait le tour de Jéricho, dire Seigneur, nous déclarons que cette ville t'appartient, nous déclarons que cette famille, que ce quartier t'appartient. Et ils ont vu des dizaines de conversions, des gens sortir de la prostitution, sortir des gangs, sortir de leur situation qui pour nous, mais on serait démunis. Mais c'est là où on a besoin de l'action de l'Esprit, l'action du Seigneur. Et ça, les amis, ça peut venir premièrement que par la prière. Et bien sûr, si on ne fait que prier et qu'on n'est pas là pour aider matériellement aussi, il y a un souci. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un ordre et je pense que ça démarre vraiment par la louange et la prière. Donc comme je vous l'ai dit, la louange, l'adoration est avant tout un choix et une attitude de cœur, quelles que soient mes circonstances. Fatigué, tu es triste, tu n'as pas envie, mais choisis d'apporter tes louanges et tes remerciements à Dieu. L'adoration, c'est un style de vie. Et je vous encourage à ça, un peu comme on se brosse les dents tous les matins, tous les soirs, certains aussi le midi. Eh bien, c'est pareil. La louange, c'est un style de vie, c'est pas optionnel dans notre vie. Passer du temps avec Dieu, c'est pas optionnel dans notre vie. Et je vous encouragerai, ayons cette bonne hygiène de vie. Plus nous passons du temps avec lui, plus on a envie de passer du temps avec lui, plus nous allons avoir ce parfum du ciel sur nous. L'atmosphère que nous créons dans l'adoration crée un tabernacle, donc crée une maison où Dieu vient habiter. Et cette louange communautaire-là, ce qu'on vit là, elle est puissante. Elle est tellement puissante quand deux ou trois, quand là, cette armée-là, que nous sommes ensemble d'une même voix, on proclame qui est Dieu, on déclare ce que Dieu fait dans nos vies et ce qu'il va faire, parce qu'on peut aussi le proclamer prophétiquement, dire Seigneur, merci, parce que tu bénis maintenant Montélimar. Merci Seigneur, parce que tu fais venir un réveil, Seigneur, parce que tu fais sortir, Seigneur, les pauvres de la misère, Seigneur. Merci parce que tu viens réconcilier, réunir ce qui a été divisé. De proclamer ça, de déclarer ça ensemble, je peux vous assurer que les murs tremblent et que des choses se passent dans Montélimar. Et durant ces soirées ciel ouvert qu'on fait depuis un an et demi, deux ans, chaque mois, chaque premier vendredi du mois, on a vu vraiment des fruits. Moi, je les ai vus dans l'unité. Vous savez, aujourd'hui, on vit des temps d'unité entre toutes les communautés de Montélimar, qui pour moi ne sont pas la résultante d'hommes et de femmes simplement qui se sont levés, mais ça vient de la résultante de, d'hommes et de femmes qui ont prié. Prier pour l'unité. Combien de divisions il y a eu dans cette ville, dans certaines églises. Et aujourd'hui, Dieu est en train de réunir. Et on vit un flash mob ensemble pour Noël. On vit plein. On vit un culte œcuménique en janvier. On sent que le Seigneur rassemble. Parce que c'est que dans l'unité que le réveil de Dieu peut venir. Le chiffre préféré de Dieu, c'est 1. Dieu est attiré par l'unité. Et on peut voir ça dans les actes des apôtres. Rappelez-vous, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres, ils étaient un, ils étaient assemblés là, dans cette chambre haute, à attendre que l'Esprit se manifeste dans leur vie. Ils étaient d'une même voix, d'un même cœur, et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et l'unité, c'est tellement important. Il est le Dieu de l'unité. Et Satan, c'est celui qui vient diviser. C'est le père des mensonges, et c'est celui qui fera tout pour diviser ton couple, pour diviser ta famille, pour diviser cette église ou d'autres communautés. Il va tout faire. Mais merci Seigneur, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est à l'unité que le Seigneur nous appelle. Alors, j'avais ça aussi à cœur de partager. Peut-être que tu es comme à un croisement où tu as certains choix à faire, et je sentais pour plusieurs personnes, surtout dans ta famille. Et c'est dur. Vous savez, des fois, je trouve que les contextes les plus difficiles ne sont pas tellement... Au travail ou même avec nos amis, mais souvent c'est dans nos propres familles qui on a grandi depuis tout petit, et c'est difficile des fois de conserver l'unité. Et je sentais que le Seigneur voulait t'encourager et te dire que tu es porteur de cette unité, et que par ta parole tu peux soit faire des dégâts, soit tu peux rassembler comme une poule rassemble ses petits. Et je sais pas, alors que ces temps de famille et de fête arrive, je suis sûr que pour la plupart, vous allez vous rassembler en famille. Quelle parole d'encouragement veux-tu apporter à ton frère de chair, à ta sœur de chair, à ton père, à ta mère, à celui à qui tu n'as peut-être pas parlé depuis des années? Quelle parole d'encouragement, quel acte d'amour tu veux faire? Et je t'invite, simplement j'aimerais qu'on, parce qu'on a encore un poil de temps, j'aimerais juste prendre 30 secondes, parce que je sens que le Seigneur veut faire quelque chose de fort dans nos familles. Est-ce qu'on pourrait juste fermer les yeux? Et le Seigneur te met là maintenant dans ton esprit certaines personnes, membres de ta famille, avec qui tu sais c'est douloureux, c'est souvent compliqué, ça part souvent en conflit dès qu'il y a une parole qui est mal prise ou quoi. Et sens que le Seigneur veut te donner une parole d'amour pour elle. Et je sens que le Saint-Esprit veut te souffler là maintenant une chose à faire, une chose à dire, qui va être un instrument d'amour et de bénédiction et de réconciliation pour ta relation avec ce membre de ta famille, pour ta famille. Et des fois, on n'a même pas conscience, comme s'il y a une relation dans la famille qui est rassemblée, qui est réunie, qui est restaurée, ça a un impact sur toute ta famille. Alors laisse le Saint-Esprit te parler. Sur quel acte d'amour, quel acte de louange il t'invite à faire? Ouais, Seigneur, je sens que, Seigneur, tu veux toucher les familles en ces temps de Noël, et tu veux restaurer, Seigneur, restaurer ce que l'ennemi a divisé. Et Père, vraiment, je veux élever ton nom sur